إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. حياكم الله جميعا en cette soirée du samedi 5. نعم، du samedi 5 جمادى الأولى 1432 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 9 avril 2011 بإذن الله سبحانه وتعالى. On va terminer, inshallah ta'ala, le cours sur les funérailles, les rites des funérailles. Ahkam al-Janaiz, les Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah. Muslim, est-ce qu'il y a des coupures ou là ça va? Est-ce qu'il y a des coupures ou là ça va, alhamdulillah? Alhamdulillah. Le Cheikh dit, rahimahullah, « Fi salati ala al-mayyiti, la yadurru an yakuna ra'suhu an yamin al-imami » page 101. Le Cheikh Rahimahullah dit, quand on prie sur un mort, maintenant il est allongé dans son cercueil en face de nous, on va prier sur lui. Le Cheikh Rahimahullah dit, ce n'est pas grave, il n'y a aucune importance que sa tête soit vers la droite de l'imam ou bien que sa tête soit vers la gauche de l'imam. Le mouhim c'est quoi? Le mouhim c'est que, yani l'imam, comme vous savez, quand il fait la prière sur un homme, il se met en face de sa tête. Et quand il fait la prière sur une femme, il se met au milieu de la femme. Non, il prie, yani en étant en face de son milieu, le milieu de la femme. Maintenant, si c'est un homme par exemple, ou on va dire même une femme, non. Est-ce que la tête du mort, doit être à droite de l'homme ou à gauche? Il a dit que ce n'est pas important. Non. Que sa tête soit à droite ou à gauche de l'imam. Page 101. Ensuite, il a dit, عند تعدد الجنازات من رجال ونساء يقدم الرجل مما يلي الإمام ثم الذكور من صبيان ثم النساء ثم الإناث من صبيان ويكون وسط الأنثى بحذاء رأس الرجل. Page 102. Le Cheikh Rahimallah a dit, maintenant si on a beaucoup, on va faire la prière sur beaucoup de morts. Disons il y a 5-6 morts, il y a des femmes et des hommes, il y a même des enfants, il y a des garçons et des filles. Non. Comment qu'on va procéder bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala? Le Cheikh a dit, يقدم الرجل. نعم. On va commencer par les hommes. نعم. On va commencer par les hommes. نعم. Ce sont eux qui seront les premiers à être les plus près de l'imam. D'abord les hommes. Ensuite les garçons. S'il y a des garçons, on va les mettre derrière les hommes. Ensuite les femmes. Et ensuite les filles. ويكون وسط الأنثى à condition que le milieu des femmes et des filles aussi soit en face de la tête des hommes, en face des têtes, disons, des hommes. Donc on va commencer par les hommes. Ensuite on va mettre qui? On va mettre les garçons derrière. Ensuite les femmes. Où est-ce qu'on va les mettre? On va les mettre de sorte que les têtes des enfants, et des hommes aussi, soient soit en leur milieu, soit en leur milieu, au milieu des femmes et derrière elles des filles. Non. Le cheikh rahimahullah, à la page 112, il dit que ça rentre dans la sunna. Il dit que ça, le fait de se lever, il y a une janaza qui passe devant nous. S'il y a des gens qui sont en train de, qui vont aller enterrer quelqu'un et qu'ils ont ce défunt, ils l'ont sur les épaules, il a dit, il est de la sunna. Si on est assis et on fait passer le mort devant nous, il a dit, il est de la sunna de se lever, hein, jusqu'à ce que le mort passe. Et certains vont dire, oui, mais il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela auparavant, ensuite il l'a délaissé. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani rahimahullah dit que ça s'est abrogé. D'après Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, que ce n'est pas abrogé. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, yani ne l'a pas fait après, mais il a dit, s'il ne l'a pas fait, c'est pour montrer que ce n'est pas obligatoire, c'est tout. Il a dit, c'est pour montrer aux gens que ce n'est pas obligatoire de se lever. C'est pour ça que, yani, à la fin, quand on passait devant lui avec la janaza, il restait assis, pour montrer que ce n'était pas obligatoire. Et pour d'autres, comme Cheikh Al-Albani rahmoullah, c'est parce que c'est abrogé. C'est abrogé, ce n'est plus de la sunna. Non. Taïb. À la page 117. Page 117, le cheikh rahmoullah dit. السؤال عن الميت قبل الصلاة عليه هل هو مسلم أو عن أحواله هو من البدع لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على عهده دون سؤال مع وجود منافقين. Le Cheikh رحمه الله dit, le Cheikh رحمه الله dit, le fait, quand on ramène quelqu'un, un mort, pour qu'on fasse la prière sur lui, il a dit, le fait de demander, avant de faire la prière, le fait de demander, est-ce que cette personne est un croyant ou pas? Est-ce que cette personne est un musulman ou pas? Ou bien, de demander aussi, maintenant si on sait qu'il est musulman, de demander sur, yani, est-ce que, par exemple, il faisait des prières à la mosquée? Est-ce qu'il buvait pas d'alcool? Est-ce qu'il faisait ceci, cela? Cheikh Rahimahullah dit, tout ça rentre dans la bid'a. Pourquoi? Il a dit, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en son époque, il priait sur les gens qu'on ramenait pour la prière. Il a dit sans demander, sans qu'il demande est-ce que c'est un musulman, est-ce que c'est un kafir, est-ce ceci, est-ce cela. Alors qu'il y avait, non mais le cheikh il s'est dit, alors qu'il y avait parmi eux des hypocrites. Alors qu'il y avait parmi eux qui? Des hypocrites. Donc au temps du prophète, à l'essentiel, c'était plein d'hypocrites. Malgré cela, il n'a jamais demandé est-ce que cette personne que vous ramenez là pour la prière, est-ce que c'est une musulmane ou bien pas. Il a dit donc le fait de demander comme ça rentre dans les bidas. Reste à savoir une chose que le cheikh rahimahullah ici n'a pas noté. On doit, Allah subhanahu wa ta'ala alam, on doit yani, mettre ce qu'a dit le cheikh ici, yani, on doit le mettre dans un contexte où c'est un pays musulman. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, c'était quoi? C'est un pays musulman. Ça, Daoula Islamiya. C'est pour ça que la base et la règle, c'est que tous les gens sont musulmans, sauf s'il y a un délit qui montre le contraire. Mais pas, par exemple, si on est dans un pays de kofre. Si on est dans un pays de kofre, par exemple, l'âme, quand une personne meurt, on ne sait pas si la personne est musulmane ou ne l'est pas. L'âme. Sauf si quoi? Sauf si yani, il y a des gens qui témoignent que cette personne était musulmane et que c'est pour ça qu'on l'a ramenée pour faire la prière sur elle. Bi-idhnillahi ta'ala. Non. Autre chose, inshallah ta'ala. Donc, on était à la page 117. À la page 119, le cheikh rahimallah a dit Salatul dinaza. Dinaza ou janaza, nafsi. لا تحتاج إلى دعاء الاستفتاح لأن مبناها على التخفيف بخلاف التعوذ من أجل الفاتحة. Le cheikh rahimahullah a dit, quand on va faire la salat du mort, il a dit, non, ce n'est pas besoin, c'est-à-dire ça ne rentre pas aussi dans la sunna, de faire ce qu'on appelle du'a al-istiftah. Vous savez, du'a al-istiftah, quand on va faire une prière normale, qu'est-ce qu'on dit? On dit Allahu Akbar, et on ne dit pas directement au doublem shtar rajim, bismillahir rahim, mais on dit le fatiha. On dit Allahu Akbar, on dit par exemple Allahu Akbar, ensuite on dit Allahu Akbar Kabira, walhamdulillah Kathira, wa subhanallah Bukratan wa Asila. Ou bien on dit Allahu Akbar, et on fait beaucoup de dua, il y a beaucoup de sortes de dua qu'on appelle dua al-istiftah. Naam. Tendez-moi, qu'est-ce que je dis? Tu sais, Allahu Akbar. J'ai oublié moi ce que je dis beaucoup. Naam. Je choisis une de ces doigts que je dis beaucoup. Je crois que c'est celui-là que je dis. On peut dire aussi Allahu Akbar, subhanak Allahumma wa bihamdik, tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Ensuite, on dit au doublage tarajim, on commence. Al-Muhim. Il a dit dans Salat Janaza, quand on fait la prière sur le mort, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. On commence direct. On dit Allahu Akbar. Ensuite, on dit au doublage tarajim, min hamzi hu nafkhi wa nafkhi, et on dit le Fatiha. Il n'y a pas le dua, la dua du commencement, dua d'istiftah. Pourquoi? Il a dit car Salat al-Janaza est basé sur quoi? Est basé sur yani takhfif, sur le fait d'alléger. Non, c'est sur le fait d'alléger. Nous, c'est juste des duas, yani on va faire vite et on va enterrer le mort. C'est pour ça que ça n'a pas besoin de faire ça, istiftah, du'a istiftah, le du'a du commencement, ça rentre même dans, comme dit Cheikh Al-Albani, yani, que ça rentre pas dans la sunna de le faire. Naam. Tayyib. Le Cheikh Rahimahullah est de l'avis, comme Cheikh Al-Albani Rahimahullah, que, naam, que yani, c'est obligatoire dans Salat al-Janaza, quand on fait la prière sur le mort, c'est obligatoire de lire au moins Sourate al-Fatiha. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que, yani, comme a dit le prophète, al-Islam, que toute salat où il n'y a pas de Fatiha, il n'y a pas de salat. La salat, il mène le miqra, bi ummi kitab. Non. Et Salat al-Janaza, c'est aussi une salat. Donc comment se fait-il que on ne va pas dire dans Salat al-Janaza, on ne va pas dire le Fatiha? Quand il y a beaucoup de gens qui disent, ce n'est pas la peine de dire le Fatiha. Tu fais juste des doigts aux morts. Et pire encore, il y a des gens qui disent Salat al-Janaza, ça n'a même pas besoin d'ablution. Puisque ce n'est pas une vraie salat, il n'y a ni recours, ni sujoud, ni on s'incline, ni on se prosterne. Donc ça n'a pas besoin d'ablution. Pire encore, même si la personne n'a jamais prié, ce jour-là, elle peut prier. Elle peut prier Salat al-Janaza comme ça, juste pour faire des doigts aux morts. Et tout ça, bien sûr, c'est grave. Tout ça, c'est grave, car c'est une salat. C'est pour ça que Cheikh Rahimahullah et Cheikh Al-Albani aussi disent que, yani, il faut lire au moins Salat al-Fatiha. Sinon, c'est aussi sunnah de lire, après le Fatiha, de lire aussi une autre sourate. Tout ça dans le premier takbir. Car dans Salat al-Janaza, il y a au moins 4 takbir, au moins 4. Dans le premier takbir, on dit Allahu Akbar, et on dit le Fatiha au moins, et une autre sourate. Al-Muhim, le Cheikh Rahimahullah dit que ce qui prouve que lire Al-Fatiha dans Salat al-Janaza est obligatoire, il a dit, c'est quoi le dalil? Il a dit, c'est que le compagnon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, et le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Une fois, il a guidé les gens dans Salat al-Janaza, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu à voix haute, alors que Salat al-Janaza, on lit à voix basse, mais il a lu à voix haute. Et quand bien sûr, on lui a dit pourquoi tu as fait ça, il a dit li ta'lamu annaha sunnah, pour que vous sachiez que lire al-Fatiha est une sunnah, rapportée par le Bukhari. Donc, pourquoi ce grand compagnon a levé la voix et a lu à voix haute le Fatiha alors que ça se lit à voix basse. Pour que les gens sachent que le Fatiha, yani ça rentre dans quoi? Dans yani les obligations de salat, quoi? De salat al-janaza. S'il avait lu à voix basse, personne ne saurait qu'est-ce qu'il a lu. On ne sait même pas yani s'il a fait des doigts ou s'il a lu sur le kafirun, qu'est-ce qu'il a lu. Mais maintenant qu'il a lu à voix haute, c'était pour que les gens apprennent. Apprennent, n'am. C'est pour ça que nous aussi, on peut le faire, par exemple. On peut le faire si jamais quelqu'un guide. Il peut lire, par exemple, à voix haute. Juste pour que les gens sachent que voilà ce que j'étais en train de lire, bi-idhnillah ta'ala. Mais bien sûr, il ne doit faire ça que avec yani, des gens qui, disons, ont un peu yani, l'amour de la sunna et du minhaj. Sinon, yani, avec d'autres gens, ça va être une fitna. Non, ça va être une fitna. Ça y est. Page 147. Page 147, le cheikh a dit, ou bien moi je dis, اشترط الشيخ في من أراد أن يصلي على قبر أن يكون الميت قد مات في حياة هذا المصلي أي بعد ولادته وتمييزه دفعا لإحداث بدعة الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. Page 147. شوف. Que veut dire le shir ici? Le shir veut dire que vous savez que il est de la sunna si quelqu'un meurt et que on n'a pas fait par exemple nous la prière sur lui, il est de la sunna d'aller par exemple au cimetière et de faire la salat sur lui. Je donne un exemple. Par exemple, c'est juste un exemple. Par exemple, moi je suis en France. Ensuite, par exemple, je rentre en Algérie. Je trouve par exemple que mon grand-père est mort. Ou plutôt, quand j'étais en France, par exemple, mon grand-père est mort. Donc, et là-bas, c'est quelque chose de vraiment. Yani, je peux pas aller, je peux pas revenir en Algérie pour faire, pour assister à l'enterrement, etc. Donc, je dois rester là-bas. Maintenant, quand je rentre, ça fait 1 mois, ou là 3 mois, ou là 4 mois, que mon grand-père a été quoi? A été enterré. Donc, j'ai pas fait la prière sur lui. Donc, c'est de la sunna d'aller au cimetière et de faire la prière sur sa tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, comme vous savez, 2 ou 3 fois. Entre autres, il l'a fait sur la femme dont je vous ai parlé une fois, qui habitait dans la mosquée, et dont je vous ai dit que j'ai oublié, ce jour-là, j'ai oublié sa kunya. Elle s'appelle, sa kunya, c'est Ummu Mihjan. Ummu Mihjan. C'était une noire de peau. On l'avait enterrée, il n'a pas su. Ensuite, il a dit pourquoi, où est-ce qu'elle est? Ils ont dit on l'a déjà enterrée. Il est allé vers sa tombe et il a fait la prière sur elle. Et la même chose, il l'a fait avec un homme qu'on a enterré la nuit. Et le prophète, quand il a su, il a dit pourquoi vous m'avez pas réveillé? Ils ont dit on n'a pas voulu te déranger. Il est allé à la tombe, il a fait la prière sur lui. Donc, maintenant, c'est sunna d'aller faire la prière sur une personne, yani chère à moi par exemple, à laquelle je n'ai pas assisté à son enterrement. Mais le cheikh dit, il faut une condition. Quelle est cette condition? Condition, yani, vraiment nécessaire. Quelle est cette condition? Il a dit, il faut que la personne qui est morte et sur laquelle je veux prier, il faut que lorsqu'elle est morte, j'étais déjà moi, non, j'étais déjà moi, j'étais né et j'étais déjà conscient. C'est-à-dire j'avais au moins, pour être conscient, et avoir la raison, avoir au moins 7 ans. Avoir au moins 7 ans. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne peux pas faire la prière maintenant sur quelqu'un qui est mort il y a 100 ans. Car il y a 100 ans, je n'étais pas encore né. Je ne peux pas faire la prière sur quelqu'un qui est mort il y a 150 ans, 200 ans. Il faut que la personne qui soit morte, lorsqu'elle est morte, j'avais au moins 7 ans. Pourquoi? C'est quoi la hikma? La hikma, si tu vas dire, on va faire la prière sur n'importe quelle personne morte. Donc les gens vont dire, La première personne sur laquelle on va faire la prière, on va aller faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le plus méritoire. Sahoulalala. Non, pourquoi je vais faire la prière sur mon grand-père? Je fais d'abord sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, je vais faire sur qui? Sur Omar ibn Khattab, et Abu Bakr, et Uthman, et Ali, et Aïcha, et ensuite, je rentre dans la bida. Je rentre dans la bida. Donc, pour parer à tout cela, éviter les bida, donc, je ne fais la prière sur le mort, dans sa tombe, sur sa tombe, que si cette personne qui est morte, lorsqu'elle est morte, j'avais au moins 7 ans. J'avais au moins 7 ans. J'espère que c'est clair, Inch'Allah Ta'ala, et que les premières questions porteront sur le cours, Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah. Tayyib. Tayyib. Page 146, maintenant le cheikh dit, page 146, il a dit, wa min shuruti salati 'ala al-gha'ib, et parmi les conditions pour pouvoir faire la prière sur un absent, Des fois, quelqu'un est absent, il est mort dans un pays, par exemple, de Koufar, il n'y a personne qui fait la prière sur lui là-bas. Même nous, on veut faire la prière de notre pays, on veut faire la prière sur lui là-bas. Non, il a dit, pour pouvoir faire cette chose, il faut une condition, laquelle? Il faut que personne n'ait fait la prière sur lui dans le pays où il est mort. Non. Najashi, vous connaissez Najashi, le Négus, non, le roi d'Abyssinie d'autrefois. Quand il est mort, c'est un musulman. Il est rentré, c'est un chrétien, ensuite il est rentré dans l'islam. Quand il est mort, personne n'a fait la prière sur lui là-bas en Éthiopie, personne. D'ailleurs, il ne savait pas, pourquoi? Il ne savait même pas qu'il était musulman. Il a fait ça en cachette. Il n'y avait pas de musulman aussi autour de lui pour faire la prière sur lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a su qu'il était mort, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aujourd'hui, hadith se trouvant dans Sahih al-Bukhari, il a dit aujourd'hui, un de vos frères est mort. Non. Dans une autre version, quelqu'un de bienfaisant est mort aujourd'hui. Non. Ensuite, il a guidé les sahaba, il leur a dit de faire les rangs, et ils ont fait la prière sur qui? La prière sur l'absent. Ça s'appelle la prière de l'absent. Donc, de Médine, ils ont fait la prière sur quelqu'un qui était mort et enterré en Éthiopie. Ça s'appelle la prière de l'absent. Le Cheikh Rahimallah dit, pour que cette prière soit valide, il faudrait que personne n'ait fait la salat sur le mort dans le pays où il est mort. Pourquoi? Parce que des fois, ici en Algérie, au Koweït, je ne sais pas où, on te dit, Aya, il faut faire la salat sur l'absent. Tu leur dis qui? Il te dit les personnes qui sont mortes, par exemple, à Gaza. Les Chouada qui sont morts en Afghanistan, qui, je ne sais pas où ils sont morts. Il te dit, viens ici, ici chez nous, on va faire la salat sur eux. La salat de l'absent. On va dire, pour que cette salat soit acceptée, valide, il faut que personne n'ait fait la salat sur eux là-bas. Mais tant qu'il y a des musulmans là-bas et qu'il y a au moins une personne qui a fait la prière sur ce mort, notre salat, nous, n'est ni valide ni sunna. Ni valide ni sunna. Non. Et ça peut même rentrer dans la bida. C'était page 146. Dans la page 181, le shir dit, la yushtarat, ce n'est pas une condition. Ce n'est pas obligatoire. أن يكون الذي ينزل المرأة إلى القبر من المحارم. Le cheikh dit, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas obligatoire. Si c'est une femme qui est morte, que ça soit, yani, que l'homme qui va la descendre, vous savez, ce n'est pas les femmes qui vont descendre les femmes dans le cimetière pour les enterrer, c'est toujours les hommes. Maintenant, le cheikh dit que si c'est une femme qui est morte, ce n'est pas obligé que l'homme qui va descendre la femme pour l'enterrer, ce n'est pas obligé qu'il soit de ses maharim, qu'il soit de ses proches, des proches avec lesquels elle ne peut pas se marier. Il a dit, ce n'est pas une condition. Pourquoi? النبي صلى الله عليه وسلم, car le prophète صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة, a ordonné à أبو طلحة, à un compagnon qui s'appelle أبو طلحة, أن ينزل في قبر ابنته, de descendre et de faire descendre, نعم, وأن يدفنها مع حضوري مع حضوره هو وزوجه عثمان. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, quand sa fille est morte, une de ses filles est morte, نعم, il a demandé à Abu Talha. Abu Talha, c'est un étranger par rapport à la fille du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est un étranger. Il lui a demandé de descendre dans la tombe et de faire quoi? Et de faire descendre sa fille, la morte, نعم, pour l'enterrer. Donc il va la toucher, bien sûr, il va toucher le drap. Donc, alors que le prophète صلى الله عليه وسلم lui-même était présent, et lui c'était un mahram, c'est son père, il l'a pas fait descendre. Il y avait même son mari, le mari de sa fille, Uthman ibn Affan. Et c'est pas lui qui l'a fait descendre. Et un étranger a fait descendre la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr mariée, dans la tombe. Ce qui prouve quoi? Hadith rapporté par le Bukhari. Ce qui prouve que ce n'est pas une obligation, quand on veut descendre une femme dans la tombe pour l'enterrer, ce n'est pas une obligation qu'elle soit, yani, qu'on soit pour elle un mahram. Ce n'est pas une obligation. Non. Le cheikh dit, page 218, cheikh rahimahullah dit, page 218, min sunnah, ça rentre dans la sunnah, ba'd al-farari min al-dafn, que lorsqu'on termine l'enterrement, an yaqifa 'ala al-qabr, que la personne reste debout devant la tombe, puis dise, Allahumma tabbitu, ya Allah, tabbitu, yani, raffermissez-le trois fois. Allahumma thabbitu, Allahumma thabbitu, Allahumma thabbitu. Ensuite, trois fois, Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, pardonnez-lui, ou là, ya Allah, yani, descendez sur lui votre miséricorde, trois fois. Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, thumma yansarif. Ensuite, la personne quitte le cimetière. Wa amma al-mukthu 'indahu fa laysa bimashru'. Quant à ce que font certains gens, là, de rester avec le mort, yani, pour soi-disant, yani, le comment qu'on dit ça, le, lui tenir compagnie ou là, tout ça, là, ne rentre pas dans la sunna. Là, ne rentre pas dans la sunna. D'ailleurs, il y en a même qui font une certaine bida, comme j'ai vu certains la faire, surtout certains imams qui font ça. Qu'est-ce qu'ils font? Là, après avoir enterré le mort, là, et maintenant les gens commencent à quitter le cimetière jusqu'à ce que reste seulement l'imam avec lui. Et Zahmad Imam Ada, il va lui dire, yani, fais le tashahhud, fais ceci, fais cela, yani, pour le raffermir. Alors que ça, yani, au contraire, ça rentre dans la bida. Mais la sunna, c'est de dire trois fois, yani, Allahumma ghfir lahu, et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui raffermir, de le raffermir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti dans un hadith authentique. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand quelqu'un meurt et qu'on l'enterre, il a dit, quand on est en train de jeter sur lui de la terre, il a dit, quand le dernier jette la dernière poignée de terre, là, plus personne ne va jeter maintenant de la terre sur lui. C'est la dernière poignée. Il a dit, alors, deux anges viennent, yani, pour questionner le mort, trois questions. Il a dit, alors, vous devez quoi? Vous devez demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir dans les réponses. Donc, de le raffermir pour qu'il réponde bien aux trois questions. Donc, on doit toujours avoir ça, yani, entre les yeux et dans le cœur, que quand on est dans un cimetière, dès qu'il termine, là, on ne jette plus de terre sur lui, de lui faire des doigts pour que Allah ta'ala le raffermisse, car maintenant, à l'instant même, on est en train de lui poser les trois questions. Il a dit, quant à, certains qui disent que il est de la sunna de rester devant lui jusqu'à le temps à peu près l'équivalent d'égorger un chameau. Égorger un chameau, combien ça prend? 10 minutes, peut-être un quart d'heure. Certains ont dit qu'il est de la sunna de rester au moins le temps d'égorger un chameau. Et ils ont cité quoi? Non, pas seulement de l'égorger, mais ensuite, yani, de lui enlever la peau, etc. Et le temps que Yani on partage sa viande. Donc ça prend au moins une demi-heure, au moins. Le cheikh rahimahullah a dit, parce que les gens qui disent ça, ils disent pourquoi? Ils disent car il y a un sahabi radiallahu ta'ala anhu très connu, qui s'appelle Amr ibn al-As, celui qui a libéré et conquis l'Égypte. Amr ibn al-As. Ils disent que celui-là a dit comme ça. Il a dit à ses parents, à sa famille, si jamais je meurs, restez devant moi le temps d'égorger un chameau et de distribuer sa viande. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, ce conseil ou là, ce testament ou là, ce vœu ou là, ce souhait, c'est le souhait de Amr ibn al-As. Et nous, on n'est pas obligé de suivre Amr ibn al-As, mais on suit quelqu'un qui s'appelle Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cette chose. N'a pas dit rester devant le mort le temps d'égorger un chameau. Vous avez compris? Donc ça, c'est le vœu de Amr ibn al-As. Et, naam, maintenant si sa famille, la famille à lui, veut lui exaucer ce vœu, c'est entre lui et eux. Mais ce n'est pas une sunna pour nous de le suivre, radiyallahu ta'ala anhu, radiyallahu ta'ala anhu. À la page 238, le cheikh rahimahullah dit, الدعاء للميت عند قبره لا بأس به. Il a dit, c'est permis. Quand on va dans un cimetière, on s'approche d'une tombe, par exemple de l'un des gens qu'on connaît, il a dit, c'est permis de lui faire des doigts. De dire, par exemple, Allahumma arhamhu, ya Allah, faites-lui votre miséricorde. Allahumma adkhilhu al-jannah, ya Allah, rentrez-le au paradis. Ifsah lahu fi qabri, ya Allah, élargissez-lui sa tombe, etc., etc. Wahada bi khilaf fi qira'ati al-Qur'an. Contrairement au fait de réciter le Coran ou bien de lire le Coran devant sa tombe, ça rentre dans les bid'ah. Page 228. Donc vous avez remarqué, vous avez bien suivi. Quand on est devant une tombe, la sunna c'est quoi? C'est de lui faire des doigts. Ya Allah, pardonnez-lui, ya Allah, rentrez. Faites-le rentrer au paradis, ya Allah, éloignez-le de l'enfer, ya Allah, yani changez-lui une maison mieux que sa maison, des enfants mieux que ses enfants, et comme ça, dans les doigts. Mais, ça c'est permis. Mais ce qui n'est pas permis, ce qui rentre dans la bid'a, c'est d'aller là-bas pour lire le Coran. Comme certains et certaines, ils lèvent les mains et commencent à dire, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul ya ayyuhal kafirun. L'autre il lit Ayat al-Kursi, l'autre il va lire Baqara, l'autre il va lire tout le Coran, tout ça, subhanallah l'adhim, tu crois que tu es en train de faire quelque chose de bien, alors que tu fais de la bid'a et tu te remplis de siyyi'at sans que tu le saches. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse apprendre notre religion. Non. Ensuite le shir dit, page 231, une chose très importante aussi, il dit, il dit, ce n'est pas de la sunna, ça ne rentre pas dans la sunna. Ou alors, min fi'li salaf, ni dans le comportement des salaf ou salih. De quoi? De faire quoi? Al-qiyam fi nasi khatim fi maqbara. De se lever, naam, de se lever au cimetière, quand les gens terminent l'enterrement, et de commencer à faire un prêche, et de commencer à faire un discours, et de commencer à parler de la salat, ou bien du mort, ou bien. Beaucoup de gens font cela. Le cheikh Amrullah dit, ça rentre ni dans la sunna, ni dans le comportement des pieux prédécesseurs, rahimahullah. Et il a dit, ce qu'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'une fois ou deux fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait un discours, après l'enterrement du mort. Il a dit, il l'a fait, wa lam yaqsid, sans que c'était, yani, dans le plan. C'était pas planifié. Innama kana kalam majlis. Mais, c'est venu comme ça. C'est pour ça que Cheikh Rahimahullah a dit, si ça vient comme ça, sans être préparé, ça ne fait rien. Mais si c'est préparé à l'avance, et dire, voilà, il y a aujourd'hui quelqu'un qui est mort, donc je vais aller avec eux là-bas, pour que quand il termine, je vais faire un discours. Il a dit ça, le prophète Hassan ne l'a pas fait, ni les Sahaba, ni ça rentre dans la sunna. Mais si, c'était pas planifié, ensuite tu as remarqué quelque chose, ensuite, quelque chose est descendu sur ton cœur, ou là tu as été inspiré parce que tu as dit, s'il vous plaît, avant de quitter, je voudrais vous dire une chose, tu as donné une nasiha sur la salatoula, il a dit c'est permis. Mais à condition que ce n'était pas planifié et que de ne pas le faire tout le temps. Le prophète, dans toute sa vie, il a fait ça deux fois. Deux fois, sans le vouloir, sans le planifier. C'est pour ça que le Cheikh Rahmaullah dit une phrase très, très importante en arabe. Pour ceux qui comprennent l'arabe, il dit, Ij'alouha maqabir. Laissez-la des cimetières, maqabir. Walaysat manabir. Et non pas des mimbars. Le cimetière, il a dit, laisse-le cimetière. Ne fais pas du cimetière un mimbar. C'est comme si on est dans une mosquée, Jumu'ah, le mimbar, quelqu'un va monter sur le mimbar, va pouvoir nous faire le discours. Non, ça c'est un cimetière. On est venu pour enterrer la personne et pour faire des doigts et partir, non pas pour faire des discours. Mais si on le fait, comme je vous ai dit, hein, si on le fait, c'est pas planifié, on ne fait pas tout le temps, c'est permis, bi'idhnillahi ta'ala. Qu'est-ce qu'il reste encore deux ou trois choses? Quand on va dans un cimetière, où là on passe devant un cimetière, il y a beaucoup, par exemple, de doigts à faire. Là. Mais il ne faut pas mélanger entre les doigts. Commencer le premier doigt et le terminer avec un deuxième doigt en les mélangeant. Là. Ce qu'on peut dire, par exemple, la doigt que je vais dire qui est dans Sahih ibn Majah, le Cheikh Al-Albani rahmahoullah, où le prophète sallam disait Assalamu alaykum, ahl al-diyari min al-mu'minin ou al-muslimin. Que la paix soit sur vous, les gens de la demeure, les gens des demeures, des croyants et des musulmans. Wa inna insha'Allahu bikum lahiqun. Et, insha'Allah, on va vous suivre. Wa inna insha'Allahu bikum lahiqun. On va vous rejoindre. Et, insha'Allah, on va vous rejoindre. نسأل الله لنا ولكم العافية. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala à nous et à vous العافية. العافية, يعني que vous soyez préservés. On demande à Allah ta'ala à nous et à vous Allah lana العافية. Non. Et si quelqu'un meurt, hein, si quelqu'un meurt et quand on et que on rencontre quelqu'un de ses proches, qu'est-ce qu'on lui dit? اصبر واحتسب. Patiente. Et est-ce qu'on la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala? فَإِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَدَ. Yani Allah appartient ce qu'il a pris. وَلَهُ مَا أَعْطَى. Et à lui appartient ce qu'il a donné. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى. Et toute chose est chez lui, chez Allah, yani بِأَجَلٍ مُسَمَّى, yani prédestiné. Prédestiné à l'avance, ni ça n'avance, ni ça recule. Non. Si quelqu'un ne connaît pas cette doua, il peut lui dire autre chose, quelque chose qui apaise son cœur et qui le fait patienter. Il lui dit des phrases en ce sens. Yani, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire patienter. Patiente, inshallah ta'ala, Allah te rendra, yani, te donnera beaucoup de récompenses. Patiente, c'est une chose qui arrive à tout le monde. Patiente, Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Et comme ça. Non. Le Cheikh Rahimullah dit à la page 272, entre la page 272 et la page 277, il a dit, le fait d'égorger un mouton et de le faire sortir en aumône pour un mort, il a dit, laissez bi mashrou'. Il a dit, ce n'est pas légiféré, ni recommandé. Alors beaucoup de gens, ils te disent, hey, on va égorger un mouton pour notre grand-père qui est mort par exemple. On va inviter les gens à manger sadaqa pour le mort. Ou bien, on va le prendre à la mosquée et inviter les gens ou là, dans un restaurant ou là, n'importe où. Le Cheikh Rahmallah dit, ce n'est pas de la sunna, ni légiféré. Il a dit, parce que les égorgements, légiféré, c'est quoi? C'est le jour de l'Aïd, le grand Aïd, ou bien l'Aqiqa, l'Aqiqa pour l'enfant, ou bien lorsqu'on va au Hajj. Lorsqu'on va au Hajj, on égorge un mouton. Il a dit, ce sont les trois circonstances où, yani, c'est de la sunna de faire cela. Mais c'est mieux pour le mort, par exemple, il a dit, de donner l'aumône en son nom. Mon grand-père qui est mort, je vais donner yani, un peu d'argent, fils Abdullah, en son nom. Avec la niya que c'est pour lui, pas pour moi. Peut-être acheter un Coran bien d'eux et de les mettre dans la mosquée en son nom. Pour que les gens, quand ils lisent, ce soit lui qui prenne les hasanat. Bien d'acheter des choses en son nom et de les donner, fils Abdullah. Mais ce n'est pas d'égorger un mouton. Naam. Ça y est. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Naam. On va s'arrêter ici. Ce sera le dernier cours, Inch'Allah Ta'ala, sur les rites des funérailles. Et c'est le moment de Salat al-Isha, Inch'Allah Ta'ala. On commencera par les questions qui ont rapport. On va parler une seconde. Hein. On commencera, Inch'Allah, par les questions qui ont rapport au cours. Ensuite, on passera aux autres. Bi'idhnillahi Ta'ala. Rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, entre 20 minutes et une demi-heure. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسوي كلير إن شاء الله. نعم مصطفى جور بيف إن شاء الله. الحمد لله. Donc je débute par les questions qui ont plus ou moins rapport avec le cours. إن شاء الله. Première question. Salam alaikum. Il y a des gens, quand leurs proches décèdent, ils font le manger les trois premiers jours de son décès et ils invitent des personnes. Et quand aussi le mort finit ses 40 jours, ils font aussi un repas, puis invitent des gens. Est-ce que cela est permis dans l'islam de faire cette action? Barakallahu fikoum, cher. Question suivante. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous préserve et vous récompense, cher. Lors de la mort d'un proche qui était décédé le soir, on nous avait recommandé de veiller le mort jusqu'à ce qu'on l'enterre à la prière du midi et de ne pas le laisser seul un instant. Ensuite, sur sa tombe, il a été inscrit le nom et la date de naissance. Est-ce que tout ceci fait partie de la sunna? Question suivante. Bismillah wa salat wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah ya shir. Prend-on des péchés pour ne pas avoir enterré le fœtus de moins de 3 mois? Car on ne le savait pas. Barakallahu fikum, qu'Allah Ta'ala vous récompense et vous guérisse. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans les pays arabes, il se peut que lorsque les morts sont enterrés le soir, il se peut que lorsque les morts soient enterrés, ils soient enterrés sans cercueil. Enfin, j'arrive pas à bien comprendre le sens de cette phrase. Dans les pays arabes, il se peut que lorsque les morts Dans les pays arabes, il se peut que lorsque les morts sont enterrés, le soin sans cercueil, car en France, c'est obligatoire. Je vais enlever ce passage, cher. Est-il obligatoire de faire enterrer nos morts dans un pays musulman? Il y a un hadith qui dit qu'il faut enterrer les morts là où ils sont morts. Que pouvez-vous nous dire sur cela? Et qu'en est-il de nos morts déjà enterrés ici, qui vont être certainement déterrés dans quelques années? Car ici, on loue la parcelle de terre, barakallahu fikoum, cheikhana, pour votre temps et votre patience, qu'Allah vous guérisse. En résumé, cher, en France, en fait, on est obligé de mettre le mort dans un cercueil et pas dans un pays musulman. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'a voulu savoir la personne sur ça. Question suivante. Quand une personne décède, la famille fait des sadaqas, organise des repas en invitant les voisins, etc. Cela est-il légiféré et peut-on assister, participer à ce genre de choses? Donc cette question, cher, elle a un peu en rapport avec la première ou la deuxième. Atfadal, cher.
Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Vous m'entendez? Non. Pour la cinquième question, non, il n'est pas de la sunna, yani de faire des repas et d'inviter des gens à manger, à cause de quoi? À cause du mort qui a décédé, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Mais, par contre, on peut, pour le mort, yani, faire des sadaqa, par exemple, yani, donner quelque chose fi sabilillah. Ou bien yani, acheter quelque chose yani, au nom du mort. Et comme ça. Mais ce n'est pas, comme on a dit tout à l'heure, égorger un mouton ou alors inviter des gens à manger. Non. L'invitation des gens à manger n'existe pas dans la sunna si on le fait à cause du mort. Mais on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, donner de l'argent yani, aux pauvres avec l'intention que c'est pour le mort. Pour la première question qui a aussi rapport avec la cinquième, hein, y a l'habitude que certaines familles, les 3 premiers jours ou le troisième jour après après l'enterrement, ils invitent les gens à manger. Et aussi le 40e jour. Et aussi le 40e jour. Or, ces deux dates, inviter des gens à manger en général et spécialement le 3e jour et le 40e jour rentrent dans les bidas. Rentrent dans les bidas, surtout pour y la spécificité du 3e jour et du 40e jour. Non. Les savants disent c'est vraiment de la bida de faire y a des invitations pour manger, inviter les gens à manger le 3e jour et le 40e jour. Même si ce n'est pas les invités à manger, le fait de célébrer le 3e jour, en invitant par exemple des gens à lire le Coran, ou bien en invitant la famille à se réunir et à se rassembler, le 3e jour et le 40e jour, ça rentre vraiment dans la bida, qui est un égarement, bi-idhnillah ta'ala, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Là. Pour la deuxième question, ne pas laisser le mort seul. Non. Non. Pour yani, ceux qui disent que ce n'est pas bien, par exemple, de laisser le mort seul, ça aussi, c'est quelque chose un peu qui rentre dans la bida. Non. Etikad ou attester cela, hein, yani, nouer le cœur. Avec cette intention, cette idée, il ne faut pas laisser le mort seul, ça rentre aussi dans la bida. D'ailleurs, le mort, quand on va le mettre dans sa tombe, il va rester seul des centaines d'années, peut-être des millions d'années seul. Donc, on ne voit pas pourquoi Yanni, maintenant, Yanni, il a besoin de sa famille ou là. Surtout si on est de l'avis qui dit que le mort n'entend pas, il ne voit pas et ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Sauf bien sûr quand c'est dans le hadith. Sauf quand on l'enterre et au moment de quitter le cimetière, il va entendre les pas de ceux qui sont en train de quitter le cimetière. À part cela, il n'entend rien, il ne voit rien. Aussi, ce n'est pas de la sunna, hein, d'écrire son nom et sa date de naissance sur yani, sa tombe. Ce n'est pas de la sunna d'écrire son nom et sa date de naissance. Hein, sur sa tombe bi-idhnillahi ta'ala. Pour la troisième question, enterrer le fœtus de moins de 3 mois. On a dit la fois passée, si vous si vous rappelez, hein, que quand un fœtus tombe de la femme, on va voir si yani, il a atteint 4 mois et par conséquent, si on lui a insufflé l'âme ou pas. Si on lui a insufflé l'âme, c'est-à-dire qu'il a atteint 4 mois, dans ce cas, on le lave et on fait la prière sur lui et on l'enterre. Si maintenant il n'a pas atteint 4 mois, c'est-à-dire 3 mois, 3 mois et demi, 2 mois, 1 mois, etc., hein, ce n'est pas la peine de le laver, ni de faire la prière sur lui, ni de l'enterrer, ni de l'enterrer dans le cimetière. Il suffit juste de le mettre dans un drap ou bien dans un sachet ou bien, et de creuser un trou et de le mettre quelque part pour ne pas le laisser comme ça à la portée des gens et des enfants. Non. Ceux qui ne savaient pas, qui ne l'ont pas enterré du tout, non. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonner, ils ont fait ça par ignorance. Non. Et qu'est-ce qu'il reste? Non. Pour la quatrième question, la dernière, est-ce que c'est obligé d'enterrer un mort dans un pays musulman? Les savants disent non, c'est obligé d'enterrer un mort dans un pays musulman, surtout pour ceux qui ont les moyens. Pourquoi? Car comme disent les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le croyant doit être loin des mécréants, aussi bien vivant que mort. Comme ça, c'est ça la règle. Le croyant doit être loin du mécréant, aussi bien vivant que mort, vivant, pour ne pas être influencé par eux, pour ne pas les aimer, pour ne pas prendre de leurs habitudes, pour ne pas s'habiller comme eux, pour ne pas parler comme eux, pour ne pas avoir leur mentalité. Et mort, non, pour être loin du kafir qui est dans le supplice, yani éternel, dans sa tombe et Yom al-Qiyamah éternellement, afin d'être loin de lui. Là. Maintenant, pour celui qui n'a pas les moyens, ou bien qui par ignorance a été enterré dans un pays de Kofar, et qui n'a pas les moyens de le déterrer, pour le prendre, pour l'envoyer dans un pays musulman, pour celui-là, bien sûr, la mort du kafir et tout ce qui lui arrive dans la tombe, l'âme ne peut pas toucher le musulman, naam, bi'idhnillahi ta'ala, surtout que s'il a des excuses. Et vous voyez vous-même que, subhanallah, dans un pays de Kofr, le mort a pris un certain temps. Si je crois, Allah, on ne paye pas, je ne sais pas quoi, il y a la location là, du morceau de terrain là, ou le terrain. Donc, on va, je ne sais pas quoi faire, on va le faire sortir, ou là, le brûler ou la mettre un autre à sa place, je ne sais pas. Alors qu'en islam, c'est sacré. Quand on a enterré quelqu'un, on ne le fait plus ressortir, sauf pour des excuses valables. Allah subhanahu wa ta'ala, tafadhal.
Donc la question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-il permis de pleurer le mort? Non, il est permis de pleurer le mort, mais à partir de quand? Par le temps de Niyaha, qui est interdite. Donc je ne sais pas, cher, si ça se prononce comme ça. Jazakumullah khairan. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. L'imam a fait sa janaza devant le corps du mort, mais dans le cimetière, en sachant que les personnes qui étaient derrière l'imam faisaient la prière sur une terre neutre, sans tombe, mais cette terre fait partie du cimetière. Est-ce une mauvaise pratique? Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum. Mon père, Rahimahullah, est mort en France, puis avant d'être envoyé en Algérie pour être mis en terre, on l'a mis dans un cercueil. Arrivé en Algérie, j'ai souhaité qu'il soit retiré de son cercueil pour être enterré, mais sa famille proche n'a pas voulu qu'on le retire du cercueil, par conséquent, il a été mis en terre dans son cercueil. Avons-nous commis un péché en ce sens que c'est une ressemblance aux gens du livre? Et surtout, est-ce préjudiciable pour le mort? J'ajoute qu'ils ont prétexté pour ne pas sortir mon père de son cercueil, qu'il avait peur qu'il ait commencé à se décomposer, sachant qu'il est mort un lundi et est enterré un vendredi. Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Hayakum Allah jami'an. Je souhaiterais savoir si un kafir qui n'a jamais entendu parler de l'islam, de son vivant, s'il meurt, sera-t-il également questionné dans sa tombe, de même quand les enfants en bas âge, de même De même pour les enfants en bas âge, sont-ils également questionnés une fois enterrés? Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khairan. Question suivante. Ah, elle a déjà été lue celle-là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. J'ai récemment assisté à une conférence sur le lavage mortuaire. Et le frère disait qu'il fallait impérativement être très délicat avec le corps du défunt, car son âme était toujours présente dans le corps. Ma question est la suivante. Si l'âme est toujours dans le corps à ce moment, quel est le rôle de l'ange de la mort qui a pour mission de nous retirer notre âme? À quel moment l'âme quitte définitivement le corps? Est-ce que l'âme est présente dans le corps pendant les châtiments de la tombe? Barakallahu fikoum. Tfadash.
Non, vous m'entendez? Alhamdoulilah. La première question, par musulman, n'est pas très claire. Non. Est-ce que tu pourrais, Inch'Allah ta'ala, la recommencer? La première question n'est pas claire pour moi. Tfadal.
Naam, cher. Je vais vous la poster, Inch'Allah. C'est mieux parce qu'il y a de la phonétique et je prononce certainement mal ce que la personne a écrit. Tfadal, cher.
D'accord. Il est permis de pleurer le mort, mais à partir de quand? Pour la première partie de la première question, le mort, il est permis de le pleurer quand on sent qu'on veut pleurer. Pleurer, ce n'est pas nous qui nous commandons. Pleurer le mort, en islam, ce n'est pas yani, décider et dire attends, je vais pleurer maintenant. À chaque fois qu'on est chagriné et que on pleure, c'est permis. Même si c'est des années après. Maintenant, si je me rappelle mon grand-père qui est mort il y a 30 ans et que je sens que mes yeux ont larmoyé et que ensuite j'ai pleuré, je pleure. Ce n'est pas interdit en islam. Ce qui est interdit, c'est quoi? C'est, comme dit ici la personne, niyaha, de hurler. Ou bien de se frapper les joues, ou bien de se déchirer les vêtements, ou bien de se tirer les cheveux, ou bien de dire des phrases, oh, pourquoi seulement, yani, pourquoi j'ai été atteint de ce chagrin, pourquoi j'ai été atteint, je suis atteint de ce malheur, pourquoi Allah Ta'ala m'a fait cela, pourquoi Yahbé, pourquoi ceci, aïe, 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 et je commence à faire cela. Ça, c'est interdit. Mais seulement pleurer et avoir des larmes, ce n'est pas interdit. Même si c'est à vie, même si toute ta vie, tu as des larmes et tu pleures quand tu te rappelles ton père ou là ton mari ou là ton fils. Ensuite, il faut se rappeler que c'est interdit de, comment on dit ça, attends, je cherche le mot d'abord en français, ce qui est interdit en islam, c'est yani de plus de 3 jours. Yani, plus de 3 jours de montrer son chagrin, ne pas vouloir s'habiller, etc. Plus de 3 jours, même si ce n'est pas un mari. Sauf la femme, pour son mari, elle doit, pendant 4 mois et 10 jours, ne pas, yani, montrer sa parure et ne pas mettre les bijoux, etc., comme vous le savez tous. 4 mois et 10 jours. Sauf elle, pour son mari. Non. Sinon, pour tous les autres, c'est interdit plus de 3 jours. Mais ce qui était interdit, c'est quoi? Ce n'est pas de pleurer, non. C'est de montrer, yani, que je dois rester enfermé dans ma chambre, je ne parle à personne, je ne contacte personne, je ne parle pas au téléphone, tout ça. Ça, c'est interdit. Mais il y a plus de 3 jours, sauf pour la femme et son mari, 4 mois et 10 jours. J'espère que c'est clair, Inch'Allah ta'ala. Mais il y a une différence entre ça et entre avoir des larmes et pleurer sans niyaha, sans hurler, bi'idhnillahi ta'ala. Et il y a autre chose. Pour la prière au cimetière, non, ce n'est pas, c'est même interdit de prier, non, dans un cimetière, même pour le mort. La sunna, c'est de prier pour le mort dans un musalla, dans un endroit spécialement conçu pour faire la prière du mort. Sinon, dans n'importe quel endroit, un morceau de terrain comme ça, même dans un stade, mais pas dans le cimetière. Sinon, la sunna, c'est quoi? C'est dans la mosquée. C'est de faire la prière du mort dans la mosquée, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur deux frères qui sont morts, Souheil et Sel. Hein? Deux frères, ils sont morts, il a prié sur eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée. Et comme on a prié sur Aïcha, dans la mosquée, on a prié sur Omar, dans la mosquée, radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? Pour la troisième question, la personne qui a été enterrée dans le cercueil. Non. Ce n'est pas de la sunna d'enterrer quelqu'un dans le cercueil. Pire encore, c'est quoi? C'est l'enterrement des kofars. Et pour ne pas les ressembler, donc, je ne dois pas faire comme eux. Donc, je ne dois pas enterrer, non, mon mort dans le cercueil. Maintenant, pour y répondre spécifiquement à la question qui est venue, que maintenant, classe, le mort se trouve déjà dans le cercueil. Classe, ils l'ont déjà mis dans le cercueil, ça fait, je ne sais pas, une semaine ou là, je ne sais pas quand. Et que, en plus de cela, ils m'ont pas permis de le faire sortir du cercueil. Est-ce que vous m'entendez ou là, ça s'est coupé? Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, j'ai dit, en règle générale, il est interdit d'enterrer quelqu'un dans le cercueil pour ne pas ressembler au coffre. Mais maintenant, si moi j'ai essayé et je n'ai pas pu, j'ai essayé de faire sortir mon père du cercueil et j'ai pas pu. Il y a mon oncle, mes cousins qui sont vraiment difficiles et que ils n'ont pas accepté, ils ont crié, ils ont hurlé, ils ont ceci. Maintenant, s'ils vont l'enterrer et ils l'ont enterré, ce sont eux qui vont endosser Yom al-Qiyamah, les siyyi'at. Ce sont eux qui vont endosser Yom al-Qiyamah d'avoir fait cette chose. Maintenant, si eux, ils ont des raisons, ils ont dit parce qu'il s'est décomposé, et si jamais maintenant on va le faire sortir, classe, il est décomposé, il a une mauvaise odeur, il a ceci, il a cela. Si maintenant ils l'ont enterré dans le cercueil avec cette niya, pas la niya de vouloir y faire comme les kofars, mais à cause de sa décomposition, etc., peut-être Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils auront une excuse demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Quatrièmement, pour le kafir qui n'a jamais entendu parler de l'islam, naam, est-ce que je crois que la question a dit, est-ce qu'il sera questionné dans la tombe? Naam, toutes les personnes, que ce soit kafir ou pas, naam, qui sont morts pubères, seront questionnés dans la tombe, bi'idhnillahi ta'ala, sauf ceux qui ont été acceptés en islam. Sauf ceux qui ont été acceptés en islam, comme vous savez, comme des martyrs, etc. Hein? Et comme celui qui meurt le jeudi soir, la veille du vendredi. Non, il y a des hadiths que ceux-là ne seront pas yani, questionnés. Et rentrent avec eux les enfants parce qu'ils ne sont pas pubères. Non, ils sont pas pubères, donc rien. Non. Et quand il a dit kafir qui n'a jamais entendu parler de l'islam, etc., Hada, Yom al-Qiyam, Allah subhanahu wa ta'ala, va voir est-ce que vraiment il a fait des efforts, etc., et il n'est pas arrivé, ou bien il n'a pas voulu chercher à comprendre. Car il y a une différence entre celui qui veut chercher la vérité et qui n'arrive pas. Il veut chercher la vérité et comprendre. Et comparer entre les religions, et on lui dit que l'islam, c'est la plus mauvaise religion, que c'est la religion des bombes et des égorgements et de tuer les bébés, etc. Et il a fui de cette religion. Il y a une différence entre celui-là et la personne qui n'a jamais essayé de comprendre et qui a dit, moi, ça m'intéresse pas, je veux pas comprendre ni chercher c'est quoi l'islam ni rien. Celle-là, naam. C'est, yani, elle ne sera pas excusée. Quant à l'autre qui a essayé, qui n'est pas arrivé, etc., Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est dans le hadith authentique que vous connaissez tous, rentre parmi les quatre personnes qui, yom al-qiyama, Allah ta'ala va leur envoyer un messager et va les tester pour voir s'ils vont suivre ce messager ou pas. Et ce messager va leur dire de rentrer en enfer pour voir si s'ils vont le suivre ou pas. Non. Enfin, pour la dernière question, la personne qui, pendant le lavage du mort, a dit que il faut aller doucement avec le mort, etc., car son âme est toujours dans son corps, etc. On va lui dire que cette chose n'est pas vraie, bi-idhnillahi ta'ala. Car comme a dit celui qui a posé la question, donc, qu'a fait l'ange de la mort? C'est quoi la fonction de l'ange de la mort si ce n'est pas de lui ôter l'âme? Et est-ce qu'en lui ôtant l'âme, maintenant il va la lui rendre? C'est pas possible. Donc le mort, quand on le lave, son âme n'est pas avec lui. L'âme, son âme n'est pas avec lui. Certes, elle n'est pas très loin, car quand on va le mettre sur les épaules pour l'emmener au cimetière, elle va parler au-dessus du cercueil, du linceul. Elle va dire, où est-ce que vous m'emmenez, où est-ce que vous m'emmenez? Surtout si c'est une personne qui a fait du mal, qui a fait du mal, qui ne voudrait pas du tout être enterrée. Et si c'est une bonne personne, elle va dire, yani, faites vite, pour yani, la faire, yani, précipiter et hâter son enterrement. Donc elle n'est pas loin, elle est juste au-dessus du mort. Mais pour dire qu'elle est à l'intérieur du mort, ça, c'est une chose fausse, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la personne a dit, et est-ce que elle est dans le corps, yani, du mort pendant le châtiment? Pendant le châtiment. Les savants disent, bi-idhnillahi ta'ala, écrivez-moi numéro 1 si vous m'entendez. Alhamdulillah. Les savants disent, quand une personne est vivante, et on lui fait mal, on lui fait mal, le mal qu'on lui fait touche son corps. Touche son corps. Et ils ont dit, même son âme aussi, lui fait mal. Et quand il est dans la tombe, ils ont dit, le mal qui lui arrive, arrive à quoi? Arrive à l'âme. Arrive à l'âme, bi-idhnillahi ta'ala. Non, car son corps, comme vous savez, il va se décomposer, ensuite il va plus exister. Mais l'âme restera toujours, elle est là dans la tombe, en train de quoi? En train de subir le châtiment, bi-idhnillahi ta'ala. Non. Tfadal pour les autres questions.
Juste avant de continuer la lecture des questions, j'ai une petite question à vous poser. Sur les questions en rapport avec le cours, toutes les personnes j'ai déjà eu donc les différentes questions de tous les frères et sœurs qui voulaient poser des questions. Et il y a des personnes qui veulent reposer une question sur le cours. Est-ce que je privilégie ces questions-là ou alors comme elles ont déjà posé une question, on passe aux questions d'ordre général? Dites-moi si vous préférez toutes les questions d'abord qui ont un rapport avec le cours et les rites funéraires.
Non, on termine d'abord par celles qui ont rapport avec le cours, même si c'est des questions qui ont été déjà posées.
D'accord, alhamdoulillah. Donc la question suivante. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Lorsque je visite les tombes dans le cimetière proche de chez moi, il y a un crématorium à l'intérieur. C'est un endroit pour incinérer les morts, les brûler. Une fois le mort brûlé, il garde les cendres, les place dans une urne, dans le cimetière, ou les disperse dans une sorte de bac à sable. En visitant donc ces tombes, je suis des fois témoin de leur cérémonie et passe devant des cendres dispersées dans le sable. Je me pose donc la question, qu'en est-il pour leurs âmes? Étant donné qu'elles ne sont pas dans leur tombe. Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Est-il permis à la femme de sortir pour accomplir salat janaza? Dans quelles conditions doit-elle l'accomplir? Barakallahu fikum. Donc, question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Est-ce mal de faire des invocations qu'à un seul mort en particulier dans un cimetière? Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Des hommes ont apporté mon père décédé, rahimahullah, dans une pièce pour que la famille puisse le voir. Entre parenthèses, avec le kfoun et le cercueil. Qu'en est-il de cet acte? Question suivante. Comment disposer les corps quand, par exemple, les défunts sont deux femmes et un homme? Les deux femmes sont placées l'une derrière l'autre ou sur un même rang, derrière le défunt homme? Donc, à mon avis, cher, elle veut parler de soit l'un derrière l'autre, c'est-à-dire l'homme, ensuite la femme, et ensuite donc derrière la deuxième femme, ou alors elle demande si c'est l'homme, et ensuite les deux femmes qui sont sur la même ligne, derrière l'homme, ça fait un triangle. Wallahu alam, c'est comme ça que j'ai compris cette question. Et une dernière chose, la personne qui a posé la question sur les corps qui sont ramenés dans les pays musulmans, qui sont donc dans un cercueil, elle dit, doit-on les faire déterrer pour un pays musulman si on fait avec. Si on a, si on a enterré la personne dans un pays de Kufr, par ignorance, elle demande, est-ce qu'il est obligatoire de faire déterrer cette personne pour la ramener dans un pays musulman? Est-ce une obligation? Et dernière chose, le frère demande. Celui, enfin, donc maintenant c'est celui qui a posé la question sur la personne qui a enterré la personne dans un pays musulman dans un cercueil. Il demande est-ce que c'est préjudiciable pour le mort, le fait qu'on ne l'ait pas enlevé du cercueil pour le mettre dans la terre. Est-ce que c'est préjudiciable pour lui? Atfa d'Al-Shir.
Une seconde, Charles, je suis en train de monter des questions. Taïeb, il me manque une question. Cheikh, il me manque une question que j'avais pas entendue. Parce que, Cheikh, je te dis quelles sont les questions que j'ai, bi-idhnillah ta'ala. La première, ça parle des Westmore. Celles qui visitent les tombes, etc. Et on a incinéré les morts. La deuxième, celle qui dit est-ce que la femme peut faire salat de janaza. Ensuite, j'ai une autre question pour yani, comment placer les femmes, comment qu'on les place, yani, le remplacement pour faire la salat sur elles. Ensuite, j'ai celle-là, comment est-ce qu'on peut déterrer le mort pour l'envoyer dans un pays musulman. Et enfin, celui qui a été enterré dans le cercueil. Est-ce que yani, il a des péchés ou pas? Entre autres, il manque une question au milieu.
Non, en fait, il manque deux questions, cher. Car les deux dernières sont des précisions par rapport à des questions qui vous ont été posées tout à l'heure. C'est juste des précisions, Inch'Allah, à apporter. Et les deux questions qu'il manque, c'est est-ce mal de faire des invocations qu'à un seul mort en particulier lorsque l'on visite un cimetière? Et la deuxième, des hommes ont apporté mon père, Rahimahullah, dans une pièce pour que la famille puisse le voir avec le kfoun et le cercueil. Qu'en est-il de cet acte? Tfadal, cher.
Barakallahu fik, c'est quoi la dernière question, Adi? J'étais en train d'écrire. C'est quoi, Adi, mon père, ils ont ramené mon père.
En fait, il dit, cher, que ils ont apporté son père dans une pièce. Dans une pièce particulière pour que la famille puisse le voir, pour qu'il puisse le visiter. Il demande qu'en est-il de cet acte? Tfadachir.
D'accord, pour la cinquième question, inshallah ta'ala, il n'y a pas de mouchkila, il n'y a pas de problème. Car la famille veut le voir une dernière fois. Sa mère veut le voir, son père veut le voir, son épouse veut le voir, ses enfants veulent le voir. Enfin, Si maintenant il y a des gens avec lui, c'est impossible pour que la famille le voie et qu'on l'a emmené dans une autre pièce pour qu'on le voie, Inch'Allah ta'ala, il n'y a pas de mouchki là. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, Abu Bakr Siddiq, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il a vu son visage et il a embrassé entre le front. Il a dit, Ya Rasulallah, ma atiyabak, comme yani, tu es pur, vivant que mort, aussi bien mort que vivant. Naam. Même si c'est pour le voir, il n'y a pas de problème, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ou alors pour l'embrasser entre les yeux, sur le front. Si c'est une personne, yani des maharim, qui l'embrasse. Bon, ensuite on revient à la première question, inshallah ta'ala. Donc la personne avait dit que. Yani, quand elle va dans le cimetière, etc., elle trouve que ils ont incinéré des morts et que maintenant il n'y a que les cendres, etc. Qu'en est-il de l'âme, puisque l'âme n'est pas dans la tombe? Puisque l'âme n'est pas dans la tombe. Nous, on va dire à la personne, l'âme, qui t'a dit, bi-idhnillahi ta'ala, que l'âme n'est plus dans la tombe? Qui t'a dit cela? Ce qui est sûr, c'est que le corps n'est plus dans la tombe. Le corps vient d'être incinéré, vient d'être brûlé, wal-iyadu billah. Comme les bouddhistes. Donc, c'est le corps, on peut attester que le corps maintenant a été brûlé, mais jamais l'âme. L'âme est toujours dans son endroit, dans la tombe. Et même si une personne n'est pas enterrée, l'âme est toujours quelque part entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui faire subir le châtiment de la tombe si elle le mérite, ou bien les délices de la tombe si elle le mérite aussi. C'est pour ça que même une personne qui meurt, qui meurt dévorée par un lion ou par un crocodile, ou bien qui meurt dans un avion qui éclate, son corps va devenir poussière et miettes, son âme est toujours entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, naam, pour être questionné, les trois questions, et pour subir le châtiment de la mort ou bien les délices de la tombe. Ce sont des choses qui rentrent dans l'invisible, dans les choses qui rentrent dans yani, l'iman bil ghaib, l'inconnaissable, yani, les choses qu'on doit croire, hein, même si on ne les voit pas, bi-idhnillahi ta'ala. Et pour la deuxième question, la femme, hein, il lui est permis de faire salatu janaza. Il lui est permis de faire salatu janaza. Hein? Et même que Aïcha radiallahu ta'ala faisait aussi yani, salat al-janaza sur les sahaba radiallahu ta'ala anhum. Hein? Quand elle fait salat al-janaza, elle fait normalement comme l'homme derrière les hommes et elle fait de la même manière que font les hommes bi-idhnillahi ta'ala. Ce qui n'est pas yani, vraiment sunnah, c'est qu'elle suive hein? Yani, El janaza, c'est d'aller yani, dans le convoi funèbre. C'est ça, ce qui n'est pas vraiment yani, sunnah. Même si le hadith dit, je vais vous lire le hadith ici, non, une seconde. Attendez, une seconde. Où est-ce qu'il est? Une seconde. Une seconde. Ma'am. Oumu Atiya radiyallahu ta'ala anha, la grande compagnonne, Oumu Atiya radiyallahu ta'ala anha, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, kunna nunha. Yani, le prophète sallam nous interdisait yani, de suivre les convois mais c'est-à-dire sans que ça soit vraiment vraiment yani, sans insister enfin, le prophète sallam nous disons nous décommander c'est pas recommander enfin, nous décommander de suivre yani, le cortège funèbre sans vraiment insister sans vraiment consister. Quant à faire la prière sur le mort, C'est permis, comme l'homme le fait. Voyez, autre chose. Pour les femmes, c'est quoi leur emplacement? C'est quoi leur emplacement dans la prière du mort? S'il y a par exemple deux ou trois femmes, on met l'homme d'abord. S'il y a par exemple un homme, hein, s'il n'y a pas d'homme, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une femme, ensuite l'autre derrière elle et l'autre derrière elle. Exactement comme les hommes. S'il y a trois hommes, qu'est-ce qu'on va faire? Comment qu'on va faire pour les hommes? Yani, un au milieu, un à droite et un à gauche. Non. Un homme ici, un homme derrière lui et un homme derrière lui. Ensuite viennent les femmes. Une femme derrière, une femme derrière, une femme derrière. Et comme ça. Donc voilà les emplacements. Et ce n'est pas sur la même ligne. Mais l'un derrière l'autre. Bi-idhnillahi ta'ala. Pour déterrer un mort, pour l'envoyer dans un pays musulman. Naam. Ça, je crois, je dis Allahu a'lam, si c'est dans le cas où le mort ne s'est pas encore décomposé. Le mort est là, il ne s'est pas encore décomposé, on vient de le mettre hier ou là, avant-hier ou là, hein, on le ressort et on l'envoie pour être enterré dans un pays musulman. Mais maintenant, si c'est décomposé et que là, c'est trop tard et que peut-être il ne reste que les os, etc., Allah subhanahu wa ta'ala a'lam dans ce cas. Naam. Pour la personne qui a été enterrée dans le cercueil, est-ce que la personne qui a été enterrée, le mort lui-même, le défunt, est-ce qu'il a des péchés pour avoir été enterré dans le cercueil? Écrivez-moi numéro 1, musulman. Non, celui qui aura des péchés, c'est celui qui l'a enterré. Celui qui aura des péchés, c'est celui qui l'a enterré dans le cercueil, pas le mort lui-même. Reste que le mort a une part de responsabilité s'il savait et n'a pas donné des instructions à sa famille. Non, s'il savait et n'a pas donné des instructions à sa famille. C'est pour ça que vous, par exemple, qui êtes là-bas dans le pays de Kouf, ça devient pour vous, donc ça devient quoi? Ça devient une obligation d'informer dès maintenant la famille et de dire si jamais Annie je meurs, attention que vous m'enterriez dans un cercueil, comme font les chrétiens et les juifs. Attention que vous fassiez cette faute avec moi. Surtout que vous savez que là-bas en Europe, on enterre directement dans un cercueil. Donc pour que ça ne vous arrive pas et pour que vous soyez disons, excusé demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, autant les avertir dès maintenant. Attention, je voudrais y aller être enterré dans un pays de musulmans. Si jamais c'est pas possible, alors au moins pas dans un cercueil. Allah subhanahu wa ta'ala, naam. Qu'est-ce qu'il reste? Naam. La dernière question, la personne dit, quand je vais dans le cimetière, est-ce que c'est permis de faire seulement des invocations seulement à un mort? Je dis, quand on va dans un cimetière, d'abord, il y a l'invocation et la doua qui est globale à tout le monde, en disant Assalamu alaykum, ahl al-diyar, en disant que la paix soit sur vous, hein, que la paix soit sur vous, les habitations des demeures. Donc ici, j'ai fait une doua à tout le monde, à tous les musulmans, à tous les croyants. Ensuite, quand je dis je demande à Allah, à nous et à vous, la préservation de tout mal. Donc j'ai fait le doigt à tout le monde, à tous ceux qui sont dans le cimetière. Reste que maintenant, je vais faire des doigts spéciales à la personne, yani, qui, à cause d'elle, je suis venu au cimetière, à mon père, à ma mère, à mon fils. Je ne suis pas venu à cause des autres, je suis venu à cause de mon proche. Celui-là, c'est à lui que je vais faire des doigts spéciaux ou spécifiques, bi-idhnillahi ta'ala. Maintenant, pour les 5 autres questions.
Non, donc les 5 prochaines questions. Assalamu alaikum. Est-ce que la femme en période de menstrue peut faire le lavage mortuaire? Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est vrai que lorsque l'on rêve d'un mort, il faut faire une sadaqa pour ce mort? Question suivante. Salam alaikum. Les imams en France ne respectent pas toujours les principes de la da'wa salafia et se détournent souvent du haqq. Ils font donc salat janaza sur des personnes suicidées, parfois des mécréants qui faisaient seulement le ramadan par imitation de leurs amis, des personnes qui ne faisaient pas la salat ou encore des personnes mariées aux musulmans mais restaient mécréants, etc. De ce fait, qu'en est-il de cette situation? Comment devons-nous nous comporter dans ces cas? Est-ce que l'on doit suivre l'imam pour cette salat? Pouvons-nous laver ces morts et faire des doigts pour eux? Jazakumullah khayran cher. Barakallahu fikum de votre patience. Question suivante. Salam alaikum cher. Vous avez cité le hadith où il est dit que la femme ne porte pas le deuil plus de 3 jours, si ce n'est pour son mari qui est de 4 mois et 10 jours. Pouvez-vous nous dire pour quelle raison le mari et pas la mère, qui a un rang prioritaire et plus élevé, le mari de la femme ou bien la mère de la femme? Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce que pour la prière mortuaire, on lit la sourate al-Fatiha ou pas? Tfadal, cher.
Donc, Samar, c'est quoi la dernière question?
Doit-on lire sourate al-Fatiha pour la prière mortuaire? Tfadal, cher.
Donc, je commence par la cinquième, Inch'Allah Ta'ala. J'ai dit dans le cours que hein, c'était de la sunna et que c'est même obligatoire d'après certains de lire sourate al-Fatiha pendant hein, la prière mortuaire. C'est-à-dire que, au moins, le Fatiha, sinon, ce qui est recommandable et recommandé, c'est de lire Fatiha plus une autre sourate. C'est mieux encore. Non. Donc, pour ceux qui ne savent pas yani, comment on fait la prière du mort, après avoir yani, placé des rangs, et de préférence, la sunna, c'est seulement 3 rangs, de préférence. Si on peut grouper tout le monde qui est venu pour faire la prière sur le mort, si on peut les grouper en 3 rangs, c'est la meilleure des salats janaza. C'est la meilleure. 3 rangs seulement, pas plus. Maintenant, si ce n'est pas possible, il y a beaucoup de monde ou il n'y a pas comment faire 3 rangs, alors on fait 5, 7, comme ça, 8 au maximum. Si on ne peut pas maintenant 8, on fait salat janaza sur lui. Yani sans que ça soit 8, sans que ça soit impair. Ensuite, on dit Allahu Akbar et on ne fait pas dua d'istiftah. On ne dit pas Allahu Akbar Kabira ou Alhamdulillah Kathir. On dit seulement Allahu Akbar, Aoudoublam et on lit d'abord le Fatiha. Et ensuite, si on a le temps, on lit une autre sourate avec le Fatiha. Ensuite, on dit une deuxième fois Allahu Akbar. Quand on dit une deuxième fois là, on entend le takbir la deuxième fois, on va faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure salat, c'est salat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salli ta Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid. C'est la meilleure. Sinon, Allahumma salli wa sallam ala Rasulullah, Allahumma salli wa sallam ala Rasulullah, Allahumma salli. Et comme ça, jusqu'à ce qu'on entende le troisième takbir. Quand il dit le troisième takbir, on doit faire des doigts aux morts. Si c'est un homme, on dit de l'homme, irfir lahu, warhamhu, wazid fi hasanatihi, ou tajawiz an siyatihi, ou abdilhu, ahlun khayrin min ahlih, ou daran khayrin min dar sur le mort. Quand on entend le quatrième takbir, on fait des doigts aux morts, musulmans et à nous-mêmes. Et entre autres, on dit, اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده وحيينا بعده على الإسلام وتوفنا على الإيمان et comme ça, des doigts pour nous aussi, pour nous. Naam. Ensuite, on fait le salam sans lever la voix, à voix basse. Salam alaikum. C'est c'est permis aussi de faire à droite et à gauche, mais sans lever la voix. Maintenant, si l'imam il lève la voix, c'est pour que les autres sachent qu'il a dit, yani qu'il a fait le tslim, qu'il a terminé la salat. Ensuite, pendant le takbir, quand on est derrière l'imam, on est en train de faire le takbir. L'imam, quand il dit Allahu Akbar, il dit à voix haute. Pourquoi? Pour que les gens l'entendent et sachent qu'il a fait le takbir et qu'il est au deuxième takbir, au troisième et au quatrième. Mais les gens qui sont derrière lui, ce n'est pas obligé qu'ils le font à voix haute. C'est pour ça que vous allez trouver que les gens, quand ils font ça, le janaza, yani quand ils entendent l'imam dire Allahu Akbar, ils le disent tous à voix haute. Yani Allahu Akbar. Ensuite, deuxième. Allahu Akbar. Et comme ça. Alors que ça n'a rien à voir avec la sunna. L'imam dit à voix haute pour que tu l'entendes, c'est tout. Mais toi, tu n'es pas obligé de dire Allahu Akbar à voix haute. C'est comme dans la salat. Quand tu fais la salat dans la mosquée, l'imam dit Allahu Akbar. Toi aussi, tu vas dire Allahu Akbar. Tout le monde à la fois. C'est une faute, ça? Non, c'est comme ça donc qu'on fait salat. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Pour dire que on lit Salat al-Fatiha et il est avec Janaba. Il a la Janaba, lui aussi. Non, ça n'a rien à voir avec le lavage du mort, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. C'est mieux qu'il ne soit pas en Janaba, et c'est mieux pour elle qu'elle ne soit pas avec les menstrues, mais ce n'est pas une chose obligatoire. Ce n'est pas parce qu'elle a les menstrues, donc elle ne va pas laver le mort. Non. Et la deuxième question, faire une aumône pour le mort si on a rêvé de ce mort. Il n'y a rien dans la sunna qui dit ça. Il n'y a rien dans la sunna qui dit que si on rêve, je vais donner quelque chose, c'est billah, au nom de mon père. Il n'y a rien dans la sunna qui dit cela. Si maintenant rêvons de lui, tu t'es rappelé de lui. Ça fait longtemps que tu l'as oublié, ça fait des 20 ans là qu'il est mort là. Et maintenant, en rêvant de lui, tu t'es rappelé de lui. Maintenant, si tu veux faire une aumône, c'est pas parce que ça, c'est dans la sunna, mais parce que tu t'es rappelé de lui. Allah Ta'ala te l'a montré dans le rêve, permis. Mais si tu dis que, puisque je l'ai vu dans le rêve, donc, c'est de la sunna que je vais faire quelque chose pour lui. Ça rentre dans la bid'a. Muslim, est-ce que vous avez compris la différence entre je me suis rappelé de lui et je vais faire quelque chose pour lui et entre dire que c'est dans le din. Alhamdulillah. Ça, alhamdulillah. Non, pour l'avant-dernière question. L'avant-dernière question qui dit que il y a l'imam ici qui fait la salat sur des suicidés ou là sur des gens qui ne sont pas musulmans à 100% ou là. Jeudi. Pour faire la salat sur un mort, il faut une condition. Quelle est cette condition? Que le mort soit musulman. C'est tout. C'est tout. Si je suis sûr que le mort, c'est un musulman, non. Un certain nombre de musulmans, au moins une personne, doit faire la salat sur le mort. C'est interdit de le laisser sans la salat ou bien sans le lavage. Si toutefois, il est musulman, c'est tout. Maintenant, qu'il soit mort suicidé, ou bien parce qu'il a fait la zina, ou bien parce qu'il s'est drogué, une overdose et il est mort avec la drogue, ou bien il s'est jeté de la fenêtre ou là. Tout ceci ne m'intéresse pas. L'essentiel, est-ce que c'était un musulman ou un kafir, c'est tout. Si c'est un kafir, c'est interdit de faire la prière sur lui. Si est musulman, c'est interdit de ne pas faire la prière sur lui. C'est tout. Suicider ou ce qu'il a fait, ça ne m'intéresse pas. Reste une ou deux choses. Quelles sont ces une ou deux choses? C'est une ou deux choses, c'est maintenant, s'il est mort, par exemple, suicidé, ou à cause de la zina ou de la drogue, etc. Maintenant, c'est bien pour les gens de science, par exemple, de ne pas faire la prière sur lui pour y aller faire peur aux autres. Pour que les gens disent, regardez, on n'a pas fait la prière sur lui, il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de monde, juste 5 ou 6, c'est pour faire peur aux gens, c'est tout. Sinon, il faut qu'il y ait un groupe qui fasse la prière sur lui, au moins une personne. Sinon, si personne ne fait la prière sur une personne qui est morte musulmane à cause d'elle s'est suicidée ou elle est morte droguée, si personne ne fait de la prière sur elle, tous les musulmans qui savaient que cette personne est morte et n'ont pas fait la prière sur lui, tous les musulmans alors auront des péchés. Tous les musulmans qui n'ont pas fait la prière sur cette personne, alors qu'ils savaient qu'elle était morte et qu'ils savaient qu'elle était musulmane, alors ils auront des péchés. Ça, c'est la première des choses. Reste une autre chose, quand des fois j'ai des doutes, j'ai des doutes. Je ne sais pas cette personne si elle était musulmane ou elle n'était pas. Certains disent si, d'autres disent non. Maintenant, j'ai des doutes. Et apparemment, non, apparemment, son père c'était musulman, sa mère c'était une musulmane. Il y a des signes que c'est un musulman. Et c'est pas très clair que c'est un musulman. Comment qu'on fait? On va faire la prière sur lui. On va faire la prière sur lui. En quoi? En posant une condition. Je vais faire une prière sur lui en posant une condition. C'est ce qui est arrivé à Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Quand on lui ramenait des gens morts avec des Tatars, etc., mais qui apparemment sont des musulmans, mais il y a comme des signes. Ils sont pas des musulmans. Allahu alam. Naam. Qu'est-ce qu'il disait? Il a dit, yani, ça m'a vraiment yani, posé des. Yani, dans l'embarras. Vous m'entendez, Mousseline, écrit numéro 1. Il a dit, j'étais vraiment dans l'embarras. Comment faire? Est-ce qu'on fait la prière sur ces gens-là? Est-ce qu'on ne fait pas? Est-ce qu'ils sont musulmans? Ils ne le sont pas? Etc. Il a dit, alors j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le rêve. Ibn Taymiyyah dit, alors j'ai vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le rêve. Et je lui ai posé cette question. Et il m'a dit, Ishtarit ya Ahmed, parce qu'Ibn Taymiyyah s'appelait Ahmed. C'est son prénom, Ahmed. Il a dit, Ishtarit, Ishtarit, ça veut dire pose une condition à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu poses une condition? Quand tu fais la prière, tu dis à Allah, si il est musulman, alors donnez-lui rentrez-le au paradis, éloignez-le du feu, etc. S'il est musulman, ça veut dire s'il n'est pas, non. Ça veut dire, moi, j'ai fait la prière sur lui en mettant la condition que ma prière est valable s'il est musulman. Et le fait de poser des conditions, ça a été pris non seulement yani, du rêve, on ne prend pas de jugement en islam, mais de la femme que vous connaissez tous, qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, je veux aller au Hajj, etc., mais yani, j'ai un problème, je crois qu'elle parlait d'elle ou de son père. Un problème que. Yani, je suis malade, j'ai peur de ne pas continuer le hadith. Ça, il lui a dit, pose des conditions. Et je t'ai dit que yani, tu vas terminer ton hadith et yani, le suspendre là où tu as des problèmes et tu ne peux plus. C'est pour ça qu'une personne qui va aller au hadith, qui n'est pas sûre de pouvoir continuer le hadith, etc., elle a le droit, en faisant l'ihram, quand elle va commencer ce hadith, son hajj de faire une condition. De dire, ya Allah, je pose comme condition que si je ne le termine pas, je vais le suspendre pour yani, le recommencer. Yani. Donc c'est possible de poser des conditions. Et il y a aussi d'autres dalil où on pose des conditions. Dans Salat al-Istikhara, qu'est-ce que vous dites? Dans Salat al-Istikhara, vous posez la condition. Vous dites, in kana, yani, si jamais ce que je vais faire est bien pour moi, etc., alors ya Allah, facilite, etc. Si jamais ce n'est pas bien pour moi, et Allah éloigne cette chose de moi. Donc vous posez des conditions. Et aussi, les anges, quand ils sont venus vers les trois personnes, l'aveugle et le chauve et le troisième, qui avait la lèpre, quelque chose comme ça. Les anges, quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Ils ont fait une condition. Il y a Allah, ils ont dit, si cette personne est véridique, etc., alors donnez-lui. Sinon, Rendez-la comme elle était. Rendez-la chauve ou bien aveugle ou bien avec la lèpre comme elle était. Ils ont posé comme ça des conditions. Et Saad ibn Abi Waqqas, Saad ibn Abi Waqqas, le grand compagnon, qu'une personne a accusé, car Omar ibn Khattab a ordonné, a recommandé, a commandé à Saad ibn Abi Waqqas que ce soit lui l'imam dans une contrée en Irak. Et quelqu'un hypocrite a voulu quoi? A voulu lui faire des problèmes et il a envoyé à Omar al-Khattab comme quoi il ne fait pas la prière à l'heure, comme quoi il ne prie pas bien, comme quoi il est injuste, comme quoi il ne partage pas les biens entre nous, etc., etc. Il a dit comme ça devant Omar al-Khattab. Car Omar al-Khattab, quand on lui a envoyé yani, la pétition contre lui, il est allé à la mosquée. Il a voulu qu'il entende des gens. Il a dit, qu'est-ce que vous dites, vous pensez de Saad? Tout le monde s'est tu, sauf cette personne qui s'est levée. Il a dit à Omar, excuse-nous, mais il prie pas bien, il prie pas bien, il prie pas à l'heure, il est injuste, il fait ceci, cela. Qu'a dit Saad? Il a dit à Allah. Il a dit, je vais dire une chose, dit à Allah. Si cette personne est menteuse, si cette personne est en train de mentir, alors il a fait des doigts contre lui. Alors, faites de lui de sorte qu'elle soit la plus pauvre et qu'elle ne meure pas jusqu'à ce qu'elle ait des fitnas. Qu'elle meure vieille avec des fitnas. Mais il a fait la condition. Et Allah, si cette personne est menteuse et cette personne avait menti, et Allah Ta'ala a exaucé les vœux de Saad, cette personne est morte vraiment très vieille et elle est morte vraiment très pauvre. Et une personne l'a vu, une personne l'a vu, elle a dit, j'ai vu cette personne sur laquelle Saad avait fait des doigts contre elle, il a dit, j'ai vu cette personne, il y a né des sourcils qui étaient tombés, il y a né tellement vieilles, des sourcils lui ont fermé l'œil. Et il a dit, je l'ai vu, il y a né en train de faire des clins d'œil à des jeunes filles de 15 ans ou 16 ans. Cette personne qui avait 100 ans ou là 110 ans, quand une jeune fille de 15 ans ou 13 ans passait devant elle, il lui faisait des clins d'œil. Pourquoi? Et cette personne elle-même disait, elle disait, c'est Saad ibn Abi Waqqas qui a fait des doigts contre moi. Et Allah Ta'ala lui a exaucé. Yani, je peux pas faire autre chose. Donc on prend ce hadith que Saad a fait des doigts contre cette personne. En faisant une condition, en disant si, y a Allah, si cette personne est une menteuse, alors faites-lui ceci, cela. Donc on prend que, yani, on peut faire des doigts contre des gens. Hein. Saad a fait des doigts contre cette personne. Si une personne me fait du mal, je peux faire des doigts contre elle. Si je suis pas sûr que c'est elle, je pose la condition. Je dis à Allah, si, y a Allah, si c'est cette personne qui a dit telle ou telle chose contre moi, alors faites-lui telle et telle chose. J'ai dit tout ça pour dire que. Tout musulman doit faire la prière sur lui. Même s'il meurt suicidé, même s'il meurt avec n'importe quoi, un mohim qu'il soit musulman, c'est tout. Si on a des doutes, on fait le si, on fait la condition. Ça y est. Autre chose, qu'est-ce qui reste ici? Naam. Enfin, pour la quatrième question. Naam, il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes, bi'idhnillah ta'ala, pour que le temps se termine. Inch'Allah ta'ala, si yani, on a commencé à 21h30 en Algérie, dans 3 minutes, il va être 22h30, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Naam, pour la dernière question, la personne qui a dit pourquoi la femme pour son mari doit yani, rester 4 mois et 10 jours dans le deuil, alors que pour sa mère, elle ne reste que 3 jours. Et la réponse est bien sûr claire, ce n'est pas parce que le mari a plus d'importance, yani, dans les liens familiaux que sa mère. Tout le monde connaît le hadith de, yani, à qui dois-je obéir? Il a dit ta mère, ta mère, ta mère, 3 fois. Et la quatrième fois, il a dit ton père. Et même dans un autre hadith, il a dit 4 fois. Il a dit 4 fois ta mère, ta mère, ta mère, ta mère. Et la cinquième fois, il a dit ton père. Non, ce n'est pas à cause de cela que yani, Ça ne veut pas dire que donc que le mari est mieux que la mère. Mais en islam, la femme doit rester dans le deuil 4 mois et 10 jours pour deux raisons. La première, hein, la première, pour que yani, on sache, bon ici qui c'est mort, c'est son mari. On sache d'abord si elle est enceinte ou pas. Car c'est impossible qu'elle soit enceinte et que pendant 4 mois et 10 jours, yani, il n'y a pas eu de grossesse. S'il y a un bébé, hein, 4 mois et 10 jours est suffisant, hein, pour montrer qu'elle est enceinte. Et deuxièmement, pour montrer, hein, quel est le droit de son mari aux autres et que personne, yani, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de se marier et que personne n'a le droit, hein, de l'approcher, car même si son mari est mort, elle est toujours sa femme, elle est toujours son épouse, tant que la période de viduité, qui est de 4 mois et 10 jours, ne s'est pas terminée. La preuve, elle est toujours sa femme jusqu'à présent, même lui mort, personne n'a le droit de se marier avec elle, ni de l'approcher, tellement yani, son mari, c'est quelque chose de très important pour elle. Il est toujours là avec elle, même si elle est morte, jusqu'à ce que la période de viduité se termine pour qu'un homme, un étranger, puisse s'approcher. C'est pour montrer aussi, yani quoi? Pour montrer yani, le statut de son mari, bi-idhnillahi ta'ala. Mais ce n'est pas pour yani, le pleurer 4 mois et 10 jours, etc. Non. C'est pour que personne ne l'approche, bi-idhnillahi ta'ala, pendant toute cette période. Et aussi pour que, yani, voir si, bi-idhnillahi ta'ala, elle est enceinte ou elle ne l'est pas. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Reste que pour le cours de mercredi, inshallah ta'ala, prochain, il faut voir. En principe, s'il n'y a rien de spécial, s'il n'y a rien de spécial, question de santé, inshallah ta'ala, je serai là le mercredi. Mais s'il y a quelque chose, car demain, j'ai rendez-vous avec le professeur qui me dira c'est quand l'opération. S'il dit c'est demain ou l'après-demain ou là, donc mercredi, je ne serai pas là. S'il dit c'est plus loin, dans 10 jours, 15 jours, donc rendez-vous, inshallah ta'ala, mercredi. Sinon, inshallah ta'ala, il faut voir sur le site, bi-idhnillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته